Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai reçu un message sur Instagram d'un fan du Servette qui me disait si jamais pense que le gardien est toujours avancé. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. Et bon, après on tente.
Parlez de moi là. Deuxième personne du pluriel.
J'ai passé la 120 ans avec elle à penser qu'on allait regarder un petit film et tout sur Netflix. Je lui ai mis Rennes Reims. Ouais. Elle a kiffé. C'était extraordinaire. J'ai dormi sur le canapé.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Germain.
Avec Kevin Diaz, Wade Achachour et Gaël Clichy, deuxième heure de Génération After. Tiens, on va faire un petit point Ligue 2. On approche de la fin des premières périodes. Camille, où en est-on ?
32 minutes de jeu sur les pelouses de Ligue 2 et 2-1 pour 3 face au Red Star. Guingamp en a mis un deuxième face à Dunkerque. 2-0 donc pour l'en avant Guingamp. Toujours un partout entre Annecy et Nancy. Reims mène toujours 1-0 face à Clermont et 0-0 sur les autres pelouses.
Merci.
T'as vu la petite histoire à Bauer, ce qui s'est passé ?
Ifnaoui.
Marwan Ifnaoui, mon petit prince.
Mon joueur chouchou aussi.
Mon petit prince du national qui revient à Bauer avec 3 et qui marque. Ouais. C'est malheureux, il a passé les vrais Marwan. Parce qu'il s'en rappelle de très belles soirées qu'il nous a fait passer.
Il a fait monter le Red Star en Ligue 2.
Exactement, voilà. C'est les bons moments qu'on a partagés avec Kevin, avec Nico.
Ouais. Donc Kevin n'est jamais venu à Bauer.
Il est venu à plusieurs reprises. Il aime ce foot-là. Mais ça, malheureusement, c'était la vie d'avant. C'est la vie d'avant, malheureusement. Exactement, maintenant.
C'est vrai qu'on n'a pas fait le point hebdomadaire.
Ah oui, mais c'est vrai, on en a pas
parlé. Non, il n'y a aucun point à faire.
Il a encore gagné ce week-end contre Fréjus.
Il est allé taper Fréjus à Raphaël. Fréjus, candidat à la montée en national, 2-0,
3 millions de budget. Mais c'est énorme.
Attends, on va poser la question. Chaque semaine qu'on pose.
Ouais.
Ça joue la montée ou pas?
Ça joue la montée là.
Vous noterez quand même.
J5, que...
réponds.
Non, déjà.
J6.
Bah déjà, vous allez me laisser répondre.
J6, leader, 14 points.
14 points pendant que Bobigny.
3 points d'avance sur le deuxième.
3 points d'avance sur le deuxième, ouais. Ouais. Mais c'est surtout quelques points d'avance sur la zone de relégation.
Ah bah,
c'est
non, mais ça arrête.
Et,
non, mais
et c'est pour ça que
c'est quoi ce petit DS,
sur Marc-Henri Gaël, que je ne parle jamais de Samuel Lustano ici.
C'est quoi ce petit DS là?
C'est
de l'ambition. Mais si je suis joueur et que j'écoute une
comme Mehdi Benatia avec tout le matin, je travaille en disant va monter.
Tu sais ce que c'est? En fait, parler des autres équipes, c'est facile.
Bien sûr.
C'est toi.
T'as vu ça?
Tu vas te parler de Marseille.
Je suis très calme.
On avance.
On remercie. On remercie d'ailleurs Fréjus pour leur très bon accueil.
On avance. Tiens, rapidement les gars, j'ai lancé un petit sondage là sur le WhatsApp de l'After. RMC, j'ai quasiment que des supporters parisiens qui me disent, mais vraiment Kevin, hein, nous n'échangerons jamais le ballon d'or de Ousmane Dembélé par une victoire au Vélodrome hier soir.
Ah voilà. Ouais.
Faut être très clair.
C'est fou ce que ça
tous me disent hein. Ça. Tous me disent
enfin,
ça.
Moi, je suis désolé, hein. Tous, moi je trouve ça d'une tristesse abyssale. Mais bon, excusez-moi les amis. Mais
Après, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Avant le match, il y avait beaucoup de supporters parisiens qui voulaient taper le Marseille, même avec les blessés, etc. Ouais. Et faire la soirée mais complète,
si
entrée plat dessert,
si avec le ballon d'or et la victoire, qu'une victoire dans le classique ou dans un match quand même qui compte historiquement pour le football français. C'est que Daniel a vraiment raison. C'est que le PSG et les supporters parisiens n'en ont vraiment plus rien à faire du championnat et que tout ce qui les intéresse c'est le bling bling et à la rigueur, la Ligue
des Champions. S'ils ne gagnent pas à la fin de saison, je pense qu'ils seront très énervés.
Il y en a qui sont capables de dire on préfère le ballon d'or que gagner le championnat.
Ça doit exister aujourd'hui, je pense que si tu cherches dans toutes les rues les avis, je pense que tu en trouveras un.
Tu voulais dire quoi?
Rien.
Si t'as, bon bref, t'as équipé. Non, il y a Alexandre qui nous dit une question pour Monsieur Clichy. Je suis supporter du Servette FC. Pourquoi ne pas avoir pris le poste d'entraîneur?
Ah ouais, grosse question.
Hein. Ah quand on parle des autres, hein, mais là,
c'est pas dans le contrat.
Non, vraiment. Ben, en fait, directeur sportif Philippe Sanderos. Je signe les gens au Servette, c'est un petit peu l'idée. Et puis l'année où en fait ça doit se décider, Philippe décide de partir. Donc Sanderos décide de partir.
Alors, c'est
nouvelle direction,
hein.
Voilà, c'est ça. Nouvelle direction et au final, ben on choisit pas le club, on choisit les proprios et du coup, c'était là.
T'as raison.
Du coup, Walid, tu peux regarder quand même où est Philippe Sanderos maintenant.
Il est où Philippe Sanderos?
Non, je sais pas. S'il a un club.
Prochain club de Galicie. Ah, c'est vrai que je fais pas
ça. Bon les gars, justement, on va écouter Gaël tout de suite, qui veut revenir sur la défaite du PSG hier. On a beaucoup fait la victoire de l'OM. Les absents parisiens ne sont pas une excuse. Jingle, Gaël Clichy.
We never know in football. You see, it was really close the last second. Like I said before, in a way, it's the best way of winning the league. You know, last second of the game, in front of a fan.
T'as quasiment un accent anglais. Quoi. C'est fou. Quoi.
Non, si t'entends mes enfants, tu sais que j'ai pas d'accent.
C'est vrai
du tout.
Ah oui,
c'est horrible.
Ils parlent comme des Anglais.
Ouais, c'est vraiment des Anglais. S'ils parlent français, tu entends que c'est des Anglais en vrai.
Ah, ils ont un accent anglais quand ils parlent français.
Ouais, c'est
merveilleux. Alors, Gaël, pourquoi je rappelle les absences quand même. Hein, elles sont lourdes au PSG hier soir. Barcola, Doué, Dembélé, Joao Neves. Pour toi, c'est pas une excuse.
Non, c'est pas une excuse dans le sens où en fait, si on regarde sur les dernières saisons, je crois que c'est 600, 700 millions de dépensés pour Paris, et si on prend Marseille, c'est 200 millions. Donc en fait, il y a pas vraiment de. J'aime imaginer en fait que Paris a assez d'éléments sur le banc pour faire la différence. Forcément, tu vas perdre en performance parce que on parle de clairement du Ballon d'Or et puis de la star montante avec Doué. Mais non, ça doit pas être un argument pour dire que qui peuvent pas aller gagner à Marseille. Encore une fois, il faut pas minimiser la performance de Marseille. Je pense qu'ils ont joué avec leur qualité. Je pense qu'ils vont monter en puissance. Mais moi, je refuse ça. J'ai toujours refusé ça parce qu'au final, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les joueurs que tu as sur le banc, que tu payes, on va pas rentrer dans les détails, mais tous les chiffres qui ont été annoncés.
100 000 euros par mois.
Tu vois, j'ai envie de te dire, en fait, c'est un joueur qui joue dans n'importe quelle équipe en France. Donc, si tu ne peux pas compter sur ces joueurs-là dans ces grands rendez-vous, parce que j'estime que Marseille, c'est peut-être un des plus grands rendez-vous qu'ils vont avoir cette saison, en fait, je comprends plus rien. Voilà, tout simplement.
Voilà l'avis de Kevin Gaël. Hein, vous pouvez réagir au 32-16 également. Est-ce que cette défaite est excusable ou pas au regard des nombreux absents côté PSG, Walid, avec ton micro.
Moi, je suis complètement d'accord avec Gaël. Alors, bien évidemment que ça doit faire partie d'analyse. Je pense qu'avec au moins un des deux, on l'a bien vu avec Joao Neves et Barcola, la prestation globale du Paris Saint-Germain sur la première demi-heure, elle est fantastique contre l'Atalanta. Et qu'avec la perte de Joao Neves au milieu de terrain, de Barcola, de Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, ça commence à faire beaucoup, notamment sur les profils qui manque au Paris Saint-Germain. T'en parlais tout à l'heure, Kevin, la profondeur, de tout faire à 10 000, d'avoir un pouvoir de nuisance avec et sans le ballon, ça a coûté au PSG, c'est indéniable. Le mettre de côté, le balayer d'un revers de main, je pense que c'est pas avoir la bonne analyse. Par contre, là où je suis d'accord avec Gaël, c'est qu'il n'y a pas d'excuse. Même sans ces joueurs-là, tu vois le 11 type hier, avec en plus le système de jeu que Luis Enrique, mais je vais pas spoiler l'avis de Kevin parce qu'il va en parler, mais au départ, on pense que c'est un 3-5-2 avec Hakimi.
On peut y aller sur l'avis de Kevin.
Avec Hakimi et Nuno Mendes.
Pas jingle, c'est pas grave.
D'accord, mais juste Hakimi et Nuno Mendes qui, eux, peuvent gérer cette profondeur notamment. Avec Kvaratskhelia qui joue comme ça avec la Géorgie et qui a déjà joué comme ça avec le Napoli derrière Gonçalo Ramos. Un milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha, top 3 Ballon d'Or, Fabian Ruiz qui joue le football de sa vie et Zaïre-Emery qui a encore un an était jugé comme un crack. Tu dois au Vélodrome, bien évidemment, gagner le match quoi qu'il arrive, ou en tout cas ne pas le perdre. Et ça, oui, il y a pas d'excuse. 650 millions, tu disais. Je vais même pas parler de salaire que tu donnes sur le 11.
Tu as moins 9 salaires sur le terrain des PSG qui sont supérieurs à tous les salaires de.
Exactement. Donc sur ça, malheureusement, tu n'as pas d'excuse du côté du Paris Saint-Germain. T'as recruté Chevalier pour combien? 50 bâtons. Zabarni, qui est ton remplaçant, à 70 millions.
C'est un bon match pour le coup.
Qui, Zabarni?
Oui.
Non, mais je dis pas ça. Je dis juste que globalement,
t'as des joueurs pour.
T'as le 11, il reste effrayant à l'échelle de la Ligue 1. Donc pour moi, oui, tu dois pas te cacher derrière ça.
D'ailleurs, en parlant d'effrayant, même avec ce 11 hier, on faisait les paris RMC et en tout cas les cotes Winamax, c'était 4 pour l'Olympique de Marseille à domicile et je crois que c'était 1 et quelques pour le PSG. Bon, personnellement, je me suis dit quand même qu'au vu des absents, il y avait quand même quelque chose à jouer si c'était un parieur. Mais pour en revenir à ce que je voulais faire comme avis, c'est sûr que pour moi, Luis Enrique, que j'aime beaucoup au demeurant, pour moi, il s'est un petit peu trompé sur l'intersaison. Parce que comme tous les entraîneurs, et je ne leur en veux pas parce que ça fait partie de leur job, ce qu'ils aiment, c'est quand même une forme de sécurité et de continuité. Donc, c'est Luis Campos qui a dit dans Rotten sans flamme la semaine passée que c'était plutôt un choix sportif de Luis Enrique de ne pas recruter trop de joueurs, notamment des titulaires potentiels, parce qu'il voulait garder l'équilibre. Je comprends, beaucoup d'entraîneurs préfèrent évoluer avec 12-13 joueurs. Mais tu as dû le connaître notamment à Manchester City, une des grandes forces de Pep Guardiola, c'est de toujours vouloir quand même se réinventer et ajouter d'autres joueurs pour amener de la concurrence, quitte à forcément perturber un petit peu. Alors je ne dis pas que le PSG ne sera pas champion, je ne dis pas qu'ils n'auront pas leur chance pour gagner une nouvelle Ligue des Champions, mais par contre il ne faut pas qu'ils aient de blessés, et forcément les blessés. Et je fais une petite passe-dé pour un peu plus tard quand on va parler de Ballon d'Or. Et je fais un petit coucou à Tom, qui est un de mes anciens joueurs, qui m'a dit ça hier.
C'est quoi, sur Skyrock, en fait, c'est la roulette, c'est...
C'est un joueur qui me dit un truc très pertinent. Il me dit, est-ce que tu pourras quand même noter, voir en parler dans l'after, les deux à trois derniers ballons d'or sont blessés au moment de recevoir leur trophée. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Ousmane Dembélé d'être présent à la cérémonie. Je parle même pas de la blessure monstrueuse qu'a eu Rodri. Et en fait, les gars, ils jouent 60 matchs à l'année. Mais ils sont blessés. Ils sont blessés pour recevoir leur trophée. Ils sont blessés le début de saison dernière. Il y a un Pedri qui avait fait 80 matchs. Et derrière, le mec, il s'est blessé. Il a pas joué quasiment la saison suivante. Donc, voilà, on en parle souvent. Mais les joueurs, ils jouent beaucoup. Et notamment, même si Luis Enrique nous dit qu'il a une belle cellule performance, qu'ils sont en train de, ils se sont quasiment, pour beaucoup des Parisiens, blessés en sélection. Et donc, la sélection, c'est d'autres types d'efforts. Tu l'as dit, la charge émotionnelle, elle est plus grande. Et donc, pour moi, je pense, à mon humble niveau, que le Paris Saint-Germain aurait dû quand même recruter deux à trois joueurs.
Luis Enrique aurait dû demander.
Le Paris Saint-Germain, donc Luis Enrique, aurait dû demander deux à trois recrutements, parce qu'il a peut-être un petit peu mésestimé la capacité des joueurs, malheureusement, aujourd'hui, à se blesser dans le football de haut niveau.
Ouais, c'est une saison particulière aussi. Ils font une saison super longue avec la Coupe du Monde des clubs. En milieu de saison, t'as la CAN qui va arriver et puis t'as une grande compétition en fin de saison. Donc en fait, je comprends l'idée de pas vouloir changer et déranger un petit peu ce groupe qui vit bien depuis deux ans. Mais moi, par exemple, je pense à un gars comme Hakimi. On parle de ses performances là cette année, mais en fait ça remonte à il y a presque trois ans. En fait, le mec, il a enchaîné 50 matchs, il a enchaîné une saison là qui vient de passer là. Avant ça, il y avait la
Coupe du Monde, demi-finale de Coupe du Monde.
La CAN. En fait, il va avoir encore la CAN, il va encore avoir la Coupe du Monde.
Donc tu te dis pas avec ces joueurs là et tous les joueurs du PSG, tu te dis pas si ils se blessent, mais c'est plus quand ils vont se blesser. Parce que sais que ça, on touche du bois, on veut pas avoir de joueurs blessés, mais tu sais que ça va arriver. Et puis on l'a vu, il y a eu une première alerte avec Ruiz, t'as eu Ousmane qui se blesse, et ça va arriver au fur et à mesure. Parce que la charge mentale, elle est énorme. Et ça, on n'en parle pas. On parle des GPS, on parle des préparateurs physiques qui prennent beaucoup de place dans le staff aujourd'hui, dans la vie au quotidien d'un groupe. Mais la charge mentale, et c'est une chose qu'on ne voit pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. En fait,
tu peux la mesurer. Moi, j'en ai parlé tout l'été. Confiance aux experts, confiance à la compétence. Nous, on n'est que des observateurs. Mais moi, j'aurais voulu, du côté du PSG, un mec par ligne. Ils ont fait gardien, défenseur.
Et gardien pour remplacer gardien.
Oui, voilà. Donc défenseur. C'est tout. Ça va être, t'as raison. Donc défenseur, milieu, attaque. Et dans l'attaque, la polyvalence que veut Luis Enrique, un joueur un peu à la Nkunku, capable de jouer faux numéro 9, capable de jouer sur un côté et qui rentre dans son profil d'équipe. Mais aujourd'hui, moi, on va pas revenir là-dessus parce qu'on a fait des débats.
Qui est le remplaçant de Ousmane Dembélé aujourd'hui?
C'est Ramos normalement, mais c'est pas le même profil.
Ramos, on est d'accord.
Ramos, on a plus le droit d'en parler parce qu'en fait, Ramos, il doit accepter son sort. À chaque fois qu'il est titulaire avec le Paris Saint-Germain, c'est nul. Faut appeler un chat, c'est nul. C'est-à-dire qu'il y a rien, il se passe rien. Hier, encore une fois, son match, hormis le corner là sur le duel de Balerdi, tu ne le vois pas. Mais il y a pas que Ramos. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu vois, moi, je veux pas tirer sur l'ambulance. Mais hier, au-delà des considérations, transfert ou pas transfert, on en a déjà parlé 10 000 fois. Mais moi, c'est sur sa compo. Moi, j'ai pas compris Luis Enrique hier. C'est-à-dire qu'à la base, le 3-5-2 m'allait totalement. Mais c'est pas un 3-5-2 hier. Marquinhos, il est latéral droit. Et Hakimi, il est ailier. C'est-à-dire que j'ai pas compris sur la première. Alors, avec des animations bien différentes, avec, sans le ballon, c'est hybride, il y a pas de souci.
Ils sont quand même en 3-5-2.
Mais il y a beaucoup de situations où je vois Marquinhos coller la ligne.
Oui, parce que les trois défenseurs doivent
prendre la largeur. Donc ça, sur ça, pas trop compris. Et surtout que Hakimi Nuno Mendes, pour le coup, moi j'ai toujours imaginé que c'était deux joueurs qui étaient bien meilleurs à trois derrière, avec ce rôle de contre-attaquant. Et en fait, au final, tu te rends compte que c'est à quatre derrière que maintenant, vu qu'ils ont la 86 devant eux, qu'ils sont capables d'être beaucoup plus impactants. Et plus ils sont hauts, moins ils ont en fait ces mètres à parcourir. Donc hier, ils n'ont pas été si dangereux que ça, les deux. Et moi, au milieu de terrain, en termes de profil, je suis pas un grand fan. Mais pour moi, Likanguin, hier, il doit passer tous les jours devant Zaïre Emery. Parce que tu sais que tu vas avoir le ballon. Tu sais que Warren Zaïre Emery, il est sa confiance proche du néant. Et je l'ai déjà répété, pour moi, Zaïre Emery est le backup d'Hakimi. Et ce n'est plus un joueur qui doit être utilisé au milieu de terrain dans des gros matchs titulaires. Malgré les absences, ça doit être soit Mayulu, soit Likanguin qui doit jouer. Et hier, il lui redonne une opportunité. Et c'est tellement scolaire. c'est tellement neutre ce que fait Warren Zaïre-Emery hier. Et dans une équipe où t'as le ballon, où tu dois impacter, moi je pense que Luis Enrique nous a habitués à mieux hier.
C'est quoi le souci? Je concentre sur
Mayulu, la rentrée que Mayulu fait par rapport à Zaïre-Emery, mais c'est le jour et la nuit en termes d'impact. Et Mayulu, je vais aller même plus loin et je terminerai là-dessus, Nico, doit être le remplaçant de Ousmane Dembélé. C'est-à-dire que quand on voit ce qu'il a fait, juste en termes de profil, il a pas fait un match de dingue contre l'Atalanta. Mais dans ses mouvements, dans le fait que les milieux de terrain, ils peuvent arriver en deuxième lame, il est beaucoup plus important que Gonçalo Ramos. Et ça, hier, moi, je trouve que Luis Enrique se trompe sur 2-3 choix d'hommes.
Après, on n'est pas au quotidien avec eux. Ça veut dire que pendant semaine, tu as aussi un ressenti en tant qu'entraîneur. Tu as aussi un moment donné où tu dois redonner confiance à des joueurs. Si tu parles de Warren qui a un manque de confiance, peu importe que ça soit vrai ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi, tu as une semaine qui rentre dans les jambes des joueurs et tu as un feeling que le joueur te donne. Et peut-être que tu as des joueurs qui sont très bons à l'entraînement, tu as des joueurs qui sont très bons en match, et à un moment donné, tu dois faire un choix. Moi, je pense que le choix n'est pas mauvais.
Mais sur le profil,
une fois que tu termines le match et que tu perds le match, tu peux éventuellement dire que...
Ah oui, c'est
que
plus c'est, facile de le dire après, oui.
Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'un joueur qui, comme tu l'as dit il y a quelques mois, a été vu comme un crack. La qualité ne perd pas, et après, à un moment donné, pour moi, en tant que coach, c'est aussi ça le challenge. Le challenge, c'est d'aller gagner une Ligue des Champions, c'est d'être performant. Mais le challenge aussi, c'est de faire en sorte que tous tes joueurs deviennent de bons joueurs. Et pour qu'ils soient de bons joueurs, il faut que tu leur donnes cette confiance. Et donc, si c'était l'opportunité pour lui, par rapport à la séance de la veille ou même sur la semaine qui vient de passer.
Bah, oui, mais force est de constater que encore une fois, Warren Zaïre-Emery fait un match.
C'est quoi l'histoire, les amis? On l'a surestimé. Pour moi, c'est une saison exceptionnelle. Ou alors il a régressé.
Moi, j'ai toujours dit, c'est la précocité qui est impressionnante.
C'est que il y a quelqu'un qui passe souvent dans l'after qui dit que attention, quand tu exposes un jeune très très vite, Gaël parlait fort justement.
Charbonnier, c'est Lionel Charbonnier.
Ouais, c'est ça. Gaël parlait.
Tu parles de toi en fait, là, Kevin.
Ah ouais, d'accord.
Donc là, tu parlais de toi là. Il y a quelqu'un qui
n'en est même plus la troisième personne. En fait, on a passé une étape.
Pour plus rentrer. J'aime bien.
C'est une espèce d'allégorie.
Vas-y, j'aime bien.
Faire quelque chose vite, Nico. Nico, faut vraiment faire une réunion.
On va faire un retiro.
Donc, vraiment, va falloir se dire les choses.
T'as de la place chez toi, Gaël, ou pas? T'es installé, c'est bon, on peut faire un retiro chez toi.
Ça
va aller, vas-y.
J'ai vu les cartons et il y en a pas mal.
C'est pour faire un retiro et qu'il parle de lui pendant 3 heures. À un moment donné,
on va se retirer à nouveau.
On va s'en passer. Nico, on va s'en passer.
Je disais que, comme vient de dire Gaël, la charge mentale, elle n'est pas sous-estimée. Vous avez parlé, tout le monde parle toujours de son salaire, donc forcément, lui ou son entourage doit entendre ce genre de débat, ce genre de réflexion. Et je pense qu'il y a beaucoup, quand même, beaucoup à digérer pour un jeune joueur, une exposition. Je pense que Didier Deschamps, c'est une catastrophe de l'avoir sélectionné aussi jeune en équipe de France. Je l'avais déjà dit à l'époque, je le répète. Moi, je pense qu'il faut malheureusement lui laisser du temps. Mais quand t'as des mecs comme Walid Acharchour qui sont dans la salle d'attente et qui sont sur tes côtes à chaque fois que tu mets le pied sur le terrain,
je sais pas si c'est l'histoire de temps.
Je me trouve très sympa avec Walid Acharchour.
Parce que c'est leur boulot.
Sympathie pour le joueur.
Parce que c'est ton boulot, il y a pas de souci. Ouais, en tout cas, moi, je pense que forcément,
il est au PSG,
qu'il a croisé. Bah forcément, moi, je pense que ça les aide pas. Le mec, il a à peine 18 ans.
Gaël l'a croisé, donc c'est important de donner la parole.
Il y a aussi quelque chose. Et bon, pour le coup, on connaît maintenant la philosophie de jeu d'Enrique. Et t'as des profils, et t'as des qualités qui te permettent de performer dans un système ou pas. Aujourd'hui, on connaît le football de possession d'Enrique. Et peut-être que si tu veux aller dans le sens de Warren, bah, peut-être qu'il faut le mettre dans des conditions qui sont un peu plus propres à ses qualités.
Plus vertical, tu veux dire plus direct.
Bah, c'est quoi ces qualités, Gaël?
Je veux dire, moi, j'étais en Angleterre quand Benjamin Mendy était à City. Et en fait, donc, ils débattaient sur la qualité et les performances de Benjamin Mendy. Et j'ai dit, mais c'est très simple. Si tu prends Benjamin Mendy pour dédoubler sur la largeur et puis délivrer des centres, je pense qu'à l'époque, il faisait partie du top 3 en Europe. Maintenant, si tu demandes à Benjamin Mendy d'aller faire le surnombre à l'intérieur, comme pouvait le faire Zinchenko ou Cancelo, bon, ben, ça va être un joueur très limité. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est ça. Comment tu veux utiliser Warren? Nous, quand on était, alors, encore une fois, je compare pas, parce qu'il y a rien à comparer, c'était les moins de 21 et c'était le début. Mais en fait, quand tu l'utilises pour récupérer ce ballon, pour calmer, à ramener un petit peu de sérénité, c'est quelqu'un qui sait faire. Après, si tu lui demandes d'aller au-delà et de dépasser les fonctions du numéro 6, ça, c'est à Luis Enrique de le faire progresser. Encore
une fois,
on n'est
pas d'accord avec Walid quand il dit qu'il doit être le backup d'Hakimi.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, je pense.
En tout cas, la dynamique du PSG, moi, je trouve bien meilleur quand il est à ce poste-là qu'au milieu de terrain. Tu vois, un peu le syndrome Kamavinga. Je trouve même plus libéré quand il a beaucoup plus. Parce que, attention, Achraf Hakimi, non, mais c'est un milieu de terrain supplémentaire. C'est-à-dire que c'est pas latéral droit.
Oui, c'est pas le.
Non, mais peut-être que ça peut être une position sur laquelle il peut éventuellement progresser. Mais
pour lui donner de confiance.
On l'a vu avec Ousmane. Qui aurait pensé qu'une saison comme ça, voilà.
En 3 mois,
il est incroyable.
Voilà pour ZRM. Nassim arrive dans un instant au 32. 16. Merci de ta patience. La Ligue 2, c'est la mi-temps. Le point sur les scores, Camille.
Et 1-0 pour Bastia face à Rodez avec un but d'Amine Boutra à la 37e. Les Dunkerquois, eux, sont revenus à un but face à Guingamp. Donc 2-1 pour l'en avant Guingamp face à Dunkerque. Boulogne a marqué 1-0 donc pour Boulogne face à Montpellier à la Mosson. Reims en a marqué un deuxième face à Clermont. 2-0 donc pour Reims face au Clermontois. 1-0 pour Le Mans face à Grenoble avec un magnifique but de Gueye. Et puis toujours 2-1 pour 3 face au Red Star. 1 partout entre Annecy et Nancy. Et 0-0 sur les autres pelouses.
Dans un instant, la suite des générations after. Reste avec nous Kevin Diaz, Gaël Clichy, Walid Acharchour. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération after.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Gaël Clichy, avec Walid Acharchour, c'est Génération After sur RMC. On est ensemble jusqu'à.
Faut vraiment mettre les pubs à l'antenne une fois.
Ouais. Je sais pas, oui, il me fait le reproche de venir à vélo au boulot. Voilà.
Non, sur alors là, pas du tout. On va pas raconter.
Vélo. Ouais. Ouais, un vélo électrique, oui.
C'est pas un vélo, c'est une Rolls Royce.
C'est un OVNI.
Non, parce que c'est pas vrai. J'ai eu le droit à la prime entreprise.
Ah, la prime entreprise.
Environnement, qui m'a permis d'acheter un vélo haut de gamme électrique.
Non, c'est pas ça qu'on te reproche. C'est qu'en fait, quand tu viens, oh, je viens à vélo, etc., on a l'impression que c'est le petit VTT, tu vois, à 120 euros. Alors qu'en fait, le mec, il a une Formule 1 à 1800 euros. Oh, qui va à 10 000
il m'a coûté 800 euros
le casque, il y a de la lumière, de la
exactement.
Musique,
ah ouais.
Il y a tout dans les casques connectés,
exactement.
Il a des lunettes méta dans le
il
casque,
il a une machine le truc,
lunettes méta, mais calme-toi. Nassim était avec nous, j'espère qu'il va faire redescendre tout ça, supporter du PSG. Salut Nassim.
Salut, vous allez bien?
Bien et toi?
Ça va, merci.
Excuse-moi Nassim, je te pose juste une question.
Je sais ce que j'ai à poser.
Et moi,
ballon d'or ou gagner le classique?
Bah, le ballon d'or, évidemment.
Et voilà, bah écoute, ça y est, on est perdu.
Mais qu'est-ce que tu comprends pas, en fait?
Attends, alors, sinon.
Pendant 14 ans, ils ont battu l'OM.
D'accord,
ils
ont ballon d'or.
Ils ont chevaux de France, ils ont gagné avec des champions.
Ballon d'or ou titre de champion de France?
Titre de champion de France.
Ah ouais, d'accord.
Ok, non,
ouais,
quand même. Non, là, ça va.
Ça va quand même.
Je suis rassuré. Ouais.
Vas-y, ah, Nassim.
Tu compares la comparable, quand même.
Oui, il a raison, c'est quand même. Elle est un peu loin, Kevin.
Et pourquoi le ballon?
C'est incomparable de gagner.
Non mais tu demandes.
Mais attendez.
Le ballon d'or, champion de champion.
On va remettre quand même dans le contexte. Si on demande à des supporters du Barça ou du Real s'ils préfèrent gagner le Classico ou gagner un ballon d'or, vous croyez qu'ils disent quoi?
Le Classico.
Mais c'est différent. C'est vrai. Le ballon d'or, c'est différent.
Ils ont gagné plein des ballons d'or.
C'est différent.
C'est un événement pour le PSG.
Ils peuvent en gagner 200 des matchs, l'Ajax.
C'est pas la même.
L'Ajax peut en donner 200 des classiqueurs. Si tu leur demandes aux supporters s'ils préfèrent gagner un ballon d'or avec un joueur de leur équipe ou s'ils préfèrent battre une 201e fois Feyenoord. Je sais ce qu'ils vont répondre. Mais après,
bah
si on n'est pas un pays.
Laisse parler Nassim.
J'ai une question à te poser, du coup, Kevin. L'écart, il est aussi grand entre le Real et le Barça et l'Ajax et le Feyenoord, ou je sais pas, est-ce qu'il est aussi grand? Est-ce qu'il gagne pendant 14 ans à l'extérieur?
Mais que ce soit aussi grand ou pas, tu me permettras de penser que moi, mon adversaire, je veux l'enfoncer jusqu'à ce que je puisse l'enfoncer. Et que.
Je crois qu'il est déjà bien enfoncé quand même.
Un résultat individuel pour un joueur, bon, si sympa soit-il, ça ne me fera jamais. Me dire que je préfère ça à gagner contre le
Real. Je suis de ton école. Okay. Nassim, tu voulais nous parler du match d'hier soir d'abord.
C'est très triste.
Ouais. Alors,
tu trouves qu'on en fait des tonnes sur la victoire de l'OM?
J'ai bien, ouais, exactement. Alors moi, je voulais revenir sur la victoire de l'OM. Donc déjà, en tant que supporter parisien, on va quand même être bon joueur. On va féliciter l'OM pour sa victoire après 14 ans de supplice. Mais j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit depuis Rotten sans flamme, en réalité, jusqu'à maintenant. Est-ce que vous n'êtes pas en train un petit peu de survendre la victoire de l'OM? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde les stats du match, quand on parle vraiment de stats, le PSG est au-dessus dans quasiment tout. Et hier, vous avez eu l'un des pires PSG qu'on a vu peut-être sur l'année. Allez, je suis gentil sur l'année, je reste que sur l'année. Et pourtant, à vous écouter,
sur quel stade t'es au-dessus?
La possession, déjà, ça, ça c'est la première des choses. Les tirs cadrés, t'es au-dessus. Après, je peux continuer.
Les expected goals, t'es au-dessus?
Non, mais les expected goals, tu sais très bien, parce qu'il y a des frappes de loin. Donc, c'est pas pareil.
Non, mais les expected goals, l'OM a quasiment le double.
Oui, effectivement, mais il y a combien de tirs cadrés de l'OM?
Non mais rassure-moi Nassim, sur la première mi-temps, elle est très mauvaise quand même du côté du PSG, non?
Mais non mais là-dessus, Walid, je suis totalement d'accord
avec toi. Si l'OM rentre à 2-0, c'est pas non plus un scandale, non?
2-0, j'aimerais bien voir sur quoi tu bases le 2-0.
La barre de Bouyri, le but hors-jeu qui se joue à très peu de choses, même le fait d'aller chercher haut le PSG, c'est des choses qu'on a rarement vues avec l'OM. Bon, on l'a vu sous Tudor, notamment sur le match de Coupe de France sans Kylian Mbappé, mais c'est quand même, on a le droit de valoriser ça, même si attention, en deuxième mi-temps, ils ont été en difficulté. Mais qui n'est pas en difficulté face au PSG, Nassim?
Ah, mais t'as raison, Walid, mais c'est pas la prestation de l'OM en tant que telle que je te parle. C'est de dire, c'est en gros, vous l'avez gonflé, alors qu'au PSG, déjà d'une, il y avait une composition d'équipe qui n'était pas du tout celle qu'on a d'habitude, et tu le sais très bien. Et on avait même. Ah,
mais c'est une équipe compétitive ou non, quand même? L'Olympique de Marseille s'est déjà tapé la honte face à des équipes remaniées du Paris Saint-Germain ou avec des blessés sur les fameux 14 ans de supplice que tu évoquais. Voilà, il faut à un moment donné aussi dire que l'Olympique de Marseille peut capitaliser sur ce match-là, sur la confiance engrangée. C'est uniquement ça qu'on dit. Et que surtout, tu rencontreras le Paris Saint-Germain dans 6 mois. Si ça, c'est s'enflammer, alors en fait, voilà. on dit plus rien. On dit plus rien sur personne.
Il y a de ça, bon, si tu, sur ça et sur certains points, tu as raison.
Ouais, donc en fait, j'ai raison, Nassim, depuis tout à l'heure.
Si on revient, non, mais je vais pas te donner tort surtout, Walid.
Revient
aussi au match du Real, on dirait que l'OM a fait une prestation qui était incroyable aussi.
Mais alors, c'est un autre débat, là, Nassim. Tu nous parles du Real, mais parle-nous aussi de Real Madrid, de Marseille en 2004 aussi, avec Drogba et avec Maïté.
C'est dans la même semaine, Walid. C'est dans la même semaine, tu sais très bien. Là, quand vous avez fait un lapsus,
en fait, c'est pas ce que veux dire, Nassim,
pour le match
en fait.
De l'OM et le match du PSG.
Tu veux réduire la prestation de l'Olympique de Marseille, en tout cas la performance de l'OM?
C'est pas digne
d'un supporter vainqueur de la Ligue des Champions.
De toute façon, Nassim, à partir du moment où tu as préféré le Ballon d'Or, c'est sûr que.
Arrête avec ça.
Mais non, mais c'est exactement la même réflexion. Si tu ne comprends pas.
Non, mais juste l'OM. Juge pas la cérémonie.
Ton propos, c'est de dire qu'on s'enflamme sur le truc de l'OM, alors que moi, j'ai dit que l'OM, si c'était pas hier, ils auraient jamais battu le PSG. Donc heureusement qu'ils ont profité. Mais ils ont profité de 3 absences majeures pour gagner. Sinon, je pense qu'ils auraient jamais gagné.
J'ajoute que Gaël a nuancé en disant on va attendre de voir comment si Marseille a une autre façon d'aborder des matchs.
Et Nico, toi aussi, tu l'as dit.
T'as vu, moi je suis l'anti-Kevin. Ouais.
Ah non, pas du tout. Non, mais t'as raison
On va attendre sur face à des blocs bas, tout ça. Je te jure, on reste très prudent, Nassim, encore une fois. Mais en revanche, ce qu'on a expliqué, c'est qu'on a vu que il y a une solidité défensive, une assise défensive qu'on n'a pas vue la saison dernière.
Moi, je suis pas prudent du tout. Je pense qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'ils gagnent la Ligue des Champions et ils gagnent la Ligue 1. Je pense qu'ils font un doublé historique. Moi, la prudence, il n'y a pas de ralentir. Les freins sont. Il n'y a plus de freins, Nassim. Ne t'inquiète pas, je m'enflamme.
Il vient de dire qu'il y aura une course pour le titre.
Ça, il a quand même dit.
Ça, je le dis, par contre. Ça, j'ai foutu
sur Osbry sur X.
Ouais, ActuFoot, les mecs, ils reniflent. Ils sont là, ils sont partout sur tous les plateaux. Ils attendent. Je soupçonne Nico Jamin d'envoyer un petit MP à ActuFoot pour vendre son émission.
Moi, je pense. Quelques contacts avec du foot.
Mais bon, ça.
Faut quand même dire les choses aux auditeurs. On le soupçonne d'avoir déjà fomenté ce retweet à 19h dans le briefing.
Mais t'es un malade ou quoi? C'est pas une marionnette, Walid.
Kevin, est-ce qu'on est sur
comment il s'appelle le mec? C'est pas le ventriloque. Comment il s'appelle?
Jeff Panacloc.
Jeff Panacloc et Walid, c'est pas une marionnette. Calme-toi. Respecte-le un peu.
Est-ce qu'on serait surpris, Kevin?
Nassim,
absolument pas.
Stop. Quand on connaît l'humain. Un peu de tenue, les amis, quand même. Nassim, merci.
De rien, avec grand plaisir.
Tu reviens quand tu veux, Nassim.
Salut Nassim.
Allez, chez toi, Nassim.
Allez, bonne soirée, les gars.
Salut.
Bonne soirée à toi. Parlons du Ballon d'Or, hein, Dembélé, Ballon d'Or 2025. C'est un beau Ballon d'Or, Gaël. Mérité, c'est le débat. Pour toi, il n'y a pas de débat, numéro 1.
Oui, mérité, c'est un Français. Il n'y a pas de débat par rapport à l'impact qu'il a eu dans cette équipe. Au-delà des stats, parce que si on se colle sur les stats de Messi et Ronaldo sur la dernière saison, effectivement, c'est autre. Mais l'importance qu'il a eue dans ce système et la manière dont leur coach veut jouer, le faux neuf qui sort des fois sur la droite, c'était parfait. Pour moi, je pensais pas le voir à un tel niveau et j'attends de voir qu'il puisse rééditer ça cette année parce que c'était un vrai régal, quoi.
Tu penses que c'est possible, ça?
En tout cas, j'aimerais.
Il est capable de refaire une saison Ballon d'Or, Dembélé?
J'aimerais. Ça serait vraiment génial pour le football français, pour le PSG et puis pour lui parce que quand on connaît son histoire, on sait que c'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Il a dû se reprendre en main, j'imagine. Et au final, c'est ça. La vraie histoire, elle est là pour montrer aux jeunes que, au-delà de l'argent, des sacs, des voitures et peu importe ce qu'il y a, c'est qu'il y a une remise en question à n'importe quel moment d'une carrière et que s'il a pu le faire, il faut que tout le monde aille vers l'avant pour essayer de faire, quoi.
Il était hyper touchant hier sur scène. Hein. Vous en avez parlé dans la vidéo.
Magnifique.
Ce gamin, oui, il a quoi, 27 ans.
Ouais, enfin, ce gamin, t'as pas non plus 60 ans.
Non, non, mais ce jeune homme, entre guillemets, de fraîcheur, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai pas senti ça. Alors, peut-être qu'on est français aussi, qu'on le kiffe. Mais sur les Messi, Ronaldo, qui était habitué à revenir chaque année sur scène.
Ah oui, bah là, discours, après, c'est la
plus calibré, plus policé aussi. Là, on dirait un gars.
Tu reviens la 8ème fois.
Ouais, c'est bon.
Non, même
sur les premiers, si tu veux. T'as le sentiment
place sur la cheminée là.
T'as le sentiment d'un gars qui se dit mais moi je suis là, ouais, sur scène. Ouais. Il le dit quand je vois le palmarès du Ballon d'Or. Moi, Ousmane Dembélé, je suis là.
Oui, oui.
C'est ça qui est hyper touchant finalement.
Après, attention, faut pas non
c'est
plus
de voir un mec qui a gagné l'Euro Million, sauf que c'est pas que
Ousmane
ça. Ousmane
Dembélé, c'est pas Samaritano non plus.
Ouais,
c'est-à-dire
un mec.
On le salue avec tout le respect.
Mais ses chevaux aussi,
exactement. Samaritano ou Gauthier Hain ou ce que tu veux, sont des. C'est un joueur qui est arrivé, crack, hyper talentueux, etc. Mais qui a eu une trajectoire très bizarre avec l'hygiène de vie, les blessures, le clivage.
Pas si bizarre que ça au final.
Oui, enfin, pas bizarre, mais le gros transfert à 150 millions, remplaçant Neymar au Barça et tout ce qui va avec. Et derrière, repositionnement, réinvention de son poste. Il est dans une année historique pour le Paris Saint-Germain en allant chercher cette Ligue des Champions qui est ultra impactante aux yeux de tous. Il y a une transformation aussi sur l'efficacité qu'il n'avait pas auparavant. Et voilà, c'est aujourd'hui les planètes ils sont alignées pour Ousmane Dembélé. Et c'est pour ça que moi je voulais et je militais pour que Ousmane Dembélé l'obtienne, et c'est totalement mérité. Après, la question, ta question, Nico, est-ce que c'est un one shot ou pas? Il va d'abord savourer, digérer. Mais ça, pour moi, autant je voulais que Ousmane Dembélé le remporte, et je pensais que c'était le joueur à avoir ce ballon d'or, autant j'ai de gros doutes sur le fait de reproduire ce qu'il a fait cette saison. Parce que en termes de digestion, de nouveau statut, de pression.
Parce que t'es pas un mec taillé pour enchaîner les grosses saisons comme
même,
ça.
Mais même Kevin a raison, tout à l'heure il en parlait. Si tu regardes ceux qui l'ont eu, ceux qui l'ont pas eu sur les dernières années, mais en fait t'as pas de back-to-back. Hormis Léo Messi, la réalité c'est que Modric il a eu un coup de moins bien, même si c'était
en termes de régularité par rapport à Dembélé,
il a eu 3-4 mois un peu dans le trou parce que à l'époque au Real Madrid, tu regardes Haaland, il l'a pas eu, il a été dans le trou. Vinicius il l'a pas eu dans le trou, Rodri il l'a eu dans le trou. Aujourd'hui Ousmane Dembélé, bon tu vois la saison qui est son retour de blessure déjà après France-Espagne, après la Coupe du Monde des clubs, là t'as encore une blessure. Tu te dis ouais, il va avoir une redescente qui peut être compliquée. Mais après tout, de toute façon aujourd'hui Ousmane Dembélé il doit être là. Quand ça va compter pour le Paris Saint-Germain et sa Coupe du Monde, où pour moi l'histoire qu'il a avec l'équipe de France est insuffisante. Et il doit finir le jeu avec l'équipe de France dans son rôle qu'il doit avoir, dans son impact qu'il doit avoir, parce que c'est encore une petite tâche, même une vraie tâche dans sa carrière. Vrai, et là, à la fin, moi, je serais pas surpris qu'il parte hein, à un moment donné, qu'il parte même peut-être en Arabie Saoudite, ou parce qu'il aura fini le jeu. Mais reproduire et redevenir un joueur encore impactant, moi, j'ai des doutes là-dessus.
Kevin,
il le fera, mais pas à la hauteur de ce qu'on a vu cette saison.
Ce qui est bien avec le Ballon d'Or de Ousmane Dembélé, c'est que ça exacerbe quand même toutes les passions, ça déchaîne les passions à droite, à gauche.
Il y a une sorte d'unanimité autour de Dembélé Ballon d'Or.
Il y a quand même encore beaucoup de clubisme, pour moi un peu mal placé. Et la seule chose que moi j'ai envie de dire après l'élection, on a eu beaucoup de débats avant l'élection, c'est que c'est un Ballon d'Or qui pour moi est exemplaire dans le parcours du joueur.
Oui.
Ultra talentueux. Gros transfert, il a tout connu, hein, le broyé par le football business, il a failli, puis finalement ça a été très bien au début à Dortmund, puis il a eu un autre, il arrive quand même.
Tu avais fait un bel avis un vendredi soir où tu avais dit que c'était une magnifique histoire à raconter aux jeunes de centre de formation.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que c'est exemplaire, et Gaël en a parlé aussi, et toi tu parles aussi d'une belle histoire, Ousmane Dembélé, et l'histoire c'est que le gars a connu toutes les périodes, et ensuite il a rencontré quelqu'un. Parce que le foot, c'est des rencontres. Mmh. Il a rencontré un entraîneur. Le mec, il mettait
comme,
pas
qui,
un
pied comme son deuxième but, comme il a dit.
Il y a 12 mois, il l'a remis avant-centre pour marquer des buts. et il a eu le déclic. Il y a cette stat incroyable qu'il a mis, c'est quoi, c'est un tiers de ses buts sur 6 mois dans sa carrière. Il a mis un tiers des buts de sa carrière sur 6 mois. Mais c'est incroyable la transformation. Et moi, ce que j'aime d'Ousmane Dembélé, c'est pas ce qu'il fait avec le ballon, parce qu'avec le ballon, il a toujours su le faire et il saura toujours le faire. C'est l'attitude. Moi, ce que je garderai, c'est le côté starting block en finale de Ligue des Champions à l'entrée de la surface. C'est ça que moi je veux garder. Parce que Ousmane Dembélé, on va me dire, ah oui, c'est un joueur technique, c'est un phénomène, bien sûr. Mais non. Là où il a changé aussi, c'est dans son apport au collectif. Et ce que j'aime beaucoup dans ce Ballon d'Or, mais ça aurait été le cas pour tous les joueurs du PSG. Moi, j'aimais bien Hakimi. Je trouve très belle la troisième place de Vitinha.
Alors, c'est beaucoup de messages,
hein. C'est que
Hakimi sixième, c'est loin.
Pour moi, c'était top 3, voire top 5 minimum. Voire même top 2. Et je finirai juste par dire que Dembélé nage. Et c'est Jean-Pierre Papin qui disait ça tout à l'heure dans Rotten sans flamme. T'as pas l'impression qu'il a été, il a voulu aller chercher le ballon d'or.
Ça, j'aime bien ça.
C'est le ballon d'or qui est venu à lui par les exploits individuels, mais surtout collectifs de son équipe. Et moi, tant qu'on dit, alors il y a quand même le prisme Ligue des Champions. Il y a quand même le prisme Ligue des Champions qui est
c'est Jean-Pierre Papin qui l'a dit.
Qui est un peu trop.
Jean-Pierre Papin alors.
Qui est un peu trop gros le prisme Ligue des Champions. Mais voilà, ils ont gagné la plus belle compétition européenne, voire du monde, la plus relevée en tout cas. Et c'était un collectif. Et lui, il a été à l'image de ce collectif. Il a jamais voulu se mettre en avant pour tirer des pénalties, pour être le plus, pour avoir plus de buts, etc.
Mais il a fait ce collectif. Je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est le joueur qui fait que la Ligue des Champions devient possible pour le Paris Saint-Germain. C'est ce changement
c'est
tactique.
C'est là où on a un truc de désaccord. Pour moi, c'est un truc
mais
global.
Mais c'est ce changement tactique. Alors, pour le coup, Luis Enrique aurait pu avoir le Ballon d'Or. Parce que c'est Luis Enrique qui a cette idée-là.
C'est lui, Ballon d'Or.
Bien évidemment. Mais pour moi, c'est ça qui caractérise son Ballon d'Or. Et surtout le côté historique du Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions pour la première fois.
Dans un instant, j'en ai la parole à Tariq qui patiente depuis longtemps au 32-16, bien sûr. On va continuer avec Gaël, Clichy, Kevin Diaz. Walid Acharchour, le point Ligue 2, est-ce que des buts ont été marqués, Camille?
Oui, Clermont est revenu à un but face à Reims, but de Kader Bamba à la 49e. Reims ne mène donc plus que 2 buts à 1 face au Clermontois. Et Pau a ouvert le score face à Laval, but de Ryan Messi à la 53e, 1-0 donc pour Pau face à Laval.
Et je crois que Reims vient de marquer à l'instant, justement.
Oui, exactement.
Allez, on revient dans un instant pour la suite et la fin de Génération After. Avant, l'After exceptionnel en direct de Lyon, Jean-Michel Aulas, invité de Gilbert, Daniel et Flo. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Gaël Clichy, avec Walid Acharchour, RMC, 21h48. Ça avant de passer la main à l'After. On parle d'Embélé. Est-il capable de reproduire une saison de Ballon d'Or? Tiens, Tariq est avec nous, 32-16. Salut Tariq et merci d'avoir patienté.
Ouais, salut tout le monde.
On est heureux de t'accueillir.
Salut Tariq. Ah, c'est le grand Tariq.
Salut Tariq.
Le grand Tariq.
Supporter du PSG, je précise, auditeur fidèle de Génération.
Pour rentrer dans l'émission ce soir, il faut la question. Il faut la question Kevin Diaz.
Alors, Ballon d'or ou victoire au Vélodrome hier? Tu choisis quoi?
De base, c'est ce qui m'a fait appeler. J'étais tranquille en train de boire mon petit thé à la menthe. Et Kevin, il m'a réveillé.
C'est pour ça qu'il est là. Hein.
T'as pas répondu encore.
Ah, le ballon d'or, mais tous les jours, le ballon d'or. Tous les jours.
Mais tu trouves ça normal?
Mais oui, mais en fait, tout à l'heure, en plus, t'as dit quelque chose de très juste. Tu parlais de Jimmy Brown qui parlait des supporters et de finir le jeu. Tu finis le jeu réellement sur une saison, et surtout pour un club français, sachant qu'on n'a pas des dizaines et des dizaines de ballons d'or ni de Ligue des Champions, tu termines avec un ballon d'or français dans un club français. Et là, tu as réellement terminé le jeu concernant le club et concernant les supporters.
Le ballon d'or, il est pour Ousmane Dembélé, il n'est pas pour le Paris Saint-Germain.
Mais
quand même.
Si, Zach Ebo, justement,
ils ont eu la meilleure équipe hier, mais ils ont eu
plein de choses. Mais il y a une très bonne remarque sur le chat tout à l'heure de la chaîne YouTube, un supporter parisien disait, dans 40 ans, je me souviendrai du ballon d'or. J'aurais oublié la défaite au Vélodrome un 22 septembre, après en J5 de Ligue 1.
Ah, tu me permettras de trouver ça triste.
T'as le plus grand club du monde, qui est le Real Madrid, qui base son recrutement depuis ces 25 dernières années sur des ballons d'or. Et donc nous, on va pas minimiser ça,
t'a demandé de minimiser.
Oui, mais de là à passer devant un classique, quand même, c'est fort de café, non?
Non, parce que.
C'est plus un classique, en fait, les gars. Peut-être qu'il faut arrêter avec ça, en fait.
Là, c'est déjà un classique, vu qu'il gagne.
Oui, mais il va falloir d'autres des victoires de Marseille.
Ah, d'accord. Donc, il faut quoi? 5 victoires de Marseille pour dire que c'est un classique.
Et pour dire qu'il y a une nouvelle adversité, une nouvelle concurrence.
S'il vous plaît, par contre, s'il vous plaît, après, je laisse finir Tariq, mais s'il vous plaît, on était en train de devenir petit à petit un pays de foot. Venez, on redevient, on reste un pays de foot, s'il vous plaît. Parce que si vous croyez que Manchester City, à l'époque. Non, Manchester City, là, je ne vais pas parler. Manchester City. Si à l'époque où ils gagnaient pas un match,
avec Boca et River.
Ils jouaient pas à chaque fois avec les dents longues contre Manchester United, oui, et inversement. Et si United voulait pas enfoncer Manchester City,
demande à Gaël, il est là.
Non, je sais pas, mais je sais
si
pas.
Si tu penses que la Sampdoria de Gênes passe chez moi,
Torino.
Vous imaginez comment c'est dur pour un joueur, parce qu'en fait on est en train de débattre sur est-ce qu'on choisit un ballon d'or ou un match ou une saison. Et en fait, ce joueur-là, bon, il est blessé, mais ce joueur-là, en fait, va être jugé sur le prochain match qu'il va faire. Donc, ça veut dire qu'en fait,
c'est vrai.
Comme un peu Paris cet été, quand ils sont champions d'Europe et qu'ils perdent la Coupe du Monde des clubs, en fait, ce qui a été fait hier, c'est déjà effacé. Donc, en fait, un joueur comme Ousmane, un compétiteur, doit savourer sa récompense, mais pour autant, on va être jugé sur le prochain match. Et donc, si t'es pas bon contre Marseille, même si t'as gagné le Ballon d'Or, c'est terminé, en fait. Et c'est là où c'est très dur. Et quand on parle de charge mentale, et des équipes, même si on parle d'un collectif, une équipe qui est championne une année, a toujours un petit coup de mou sur l'année qui suit, parce que justement, on n'a pas le temps de dire qu'on est la meilleure équipe, puisqu'en fait, il y a dessus une autre compétition. Et c'est là où, en fait, il faut vraiment prendre conscience de ce que ça représente pour les joueurs, parce que on parle et on rigole, mais en fait, c'est très compliqué.
Toi, déjà, je sais pas poser la question. Ça t'intéresse le débat Ballon d'Or depuis des années, quand tu étais joueur, aujourd'hui, quand tu es observateur?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que je vais pas dire que c'est une compétition qu'on devrait enlever, parce que c'est pas ça. Mais en fait, on met tellement de lumière sur un joueur. Aujourd'hui, Ousmane mérite le ballon. Est-ce qu'il aurait pu faire ça tout seul? Bien entendu, non. Et donc, bien sûr qu'il y a un 11 d'or. Mais je pense qu'en fait, l'importance qu'on donne à cette récompense individuelle, pour moi, elle est faussée. Après, bien oui, on a vu Messi et Ronaldo.
Mais toi, dans le vestiaire où t'es passé à Arsenal, à City, notamment.
Ça a une réelle importance aujourd'hui pour les joueurs.
Les gars, ils en parlaient ouvertement dans le vestiaire. T'as joué avec des grands joueurs qui étaient candidats au Ballon d'Or, donc.
Non, il y a eu des périodes. Par exemple, quand Thierry ne gagne pas le ballon et que c'est le Ballon d'Or et que c'est Nedved, on est tous un petit peu choqués. Pareil pour Ribéry quand il ne gagne pas.
2013, alors qu'il doit le gagner.
Donc, pour moi, il y a des saisons où, en fait, c'est tellement normal et tellement logique qu'un joueur doivent le remporter et ne le remportent pas. Là, on peut en parler, mais sinon, le reste, pour moi, c'est mettre en lumière un joueur qui a travaillé dans un collectif et j'aime pas trop.
Alors, mais à l'époque, Gaël, Thierry Henry était fâché de pas l'avoir. Sincèrement, Gaël.
Ah, à l'époque, je sais pas, mais aujourd'hui.
Mais, non, mais il te l'a déjà dit, il te l'a déjà rappelé dans des discussions off en disant purée,
non, mais
ça aurait changé ma vie ou non?
Non, ça aurait pas dû changer.
Parce que pour moi, le Ballon d'Or, ça change une vie de football aujourd'hui.
Non, ça change.
Pour moi, c'est comme le Premier ministre, c'est-à-dire qu'à vie, le mec, il a l'étiquette Ballon d'Or.
Non, parce que c'est partout, à vie, il a une statue devant l'Emirates.
Non, parce que Walid, c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, tu gagnes Ballon d'Or, mais disons que t'as encore. Tu vois un peu ce que Karim Benzema fait. Je trouve que c'est génial, en fait, parce que tu fais une carrière, mais genre, parfaite. De régularité, d'esprit d'équipe, de beau football, et tu vas gagner ce trophée, et puis après tu sors en fait par la grande porte. Ça j'aime bien, parce qu'en fait on peut plus te juger, on va te juger sur ça. Maintenant on prend un gars comme Ousmane, il lui reste encore peut-être 5 ans. Ouais. Et comment ça se passe s'il n'arrive pas à reproduire ses performances? De suite on va dire c'était un coup de chance, une génération, voilà. Et c'est ce qui est dur, parce qu'en fait on bien entendu on passe toujours au prochain match, mais il y a l'aspect psychologique, et en fait Ousmane doit encore continuer 5 ans.
T'as une grosse responsabilité, parce que
forcément.
C'est un.
Non mais
c'est un. Comment
on
dire? Comment dire, Nico?
À un moment donné, ouais. Et en fait, on attend de toi que tu.
C'est un nombre de joueurs très réduit.
Vous savez,
t'as une responsabilité de dingue derrière sur la fin de ta carrière.
Il y a des jeunes qui viennent à penser que les trois Parisiens qui étaient hier à la cérémonie, le PSG les a envoyer à la cérémonie parce que c'était plus important que jouer contre Marseille.
Il y a des jeunes,
pas que lui, dans les clubs de foot qui pensent que le Ballon d'Or.
Et donc
tu peux rater un match de Ligue 1 pour aller au Ballon d'Or.
Ouais, mais ça démontre comment
ils étaient pas blessés.
Oui, qu'ils étaient pas blessés, mais c'est juste que c'était important d'aller à la cérémonie du Ballon d'Or.
Il y a beaucoup de jeunes
du foot.
Toi, dis ça. Ton regard, en tant que supporter du PSG très fidèle du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça déclenche comme émotion chez toi, justement, qu'un de tes joueurs soit élu meilleur joueur de la saison, en tout cas? Est-ce que c'est important, quoi?
Oui, c'est important. Et après, il y a surtout le joueur. Vous avez très bien parlé d'Ousmane Dembélé hier. C'était, moi, j'ai lâché une petite larme, devant le Ballon d'Or, parce que voir, On s'attendait tous à Ousmane Dembélé recevoir le trophée, peut-être placer deux ou trois blagues, et ça a été plus sous le coup de l'émotion.
Ouais, moi aussi, il m'a eu hier. Il m'a eu.
Ah oui, moi vraiment, ouais. J'étais ému, alors que habituellement, ça me fait pas grand chose. Là, je savais que j'allais être plus concerné parce que c'est un Parisien. Mais en termes d'émotion, c'était fort ce qui s'est passé hier. Et en plus, à Paris, bah avec tout le contexte de son quartier qui était là, il y avait un contexte qui a fait que c'était
mais comme pour Benzema, c'était très fort pour moi. Quand Benzema l'a eu, c'était une soirée incroyable. Moi, pour moi, c'est en fait, alors bien évidemment que ce sera pas,
c'est deux émotions différentes communiquées en tout cas.
Mais ce sera pas, on va pas remplacer ça par rapport à un but, par rapport à sa Ligue des Champions, etc. Mais c'est l'aboutissement, c'est l'apothéose d'une carrière. On a grandi avec ces mecs là on les a critiqués. Exactement. on a été déçus, on les a mis en avant, on a été complètement fan.
Rassure-moi, l'expression du moment dit que tu vas bien dormir la nuit s'il l'avait pas eu.
Non, mais hier j'étais devant le.
J'étais happé par le ballon d'or, mais j'ai aimé. Par rapport à la personnalité aussi du gars qui
le. Quand Ronaldinho il sort l'enveloppe, j'ai une émotion.
Non, d'accord.
J'ai un truc en me disant.
T'as une boule au ventre, c'est lui ou pas?
Pas une boule au ventre, mais en tout cas j'ai un truc qui se passe.
Pour Benzema, pour tout ça, s'il l'avait pas eu, tu aurais bien dormi la nuit quand même.
Après, je dors bien la nuit, il y a des choses bien plus graves dans la vie que.
Non, mais c'est pas de foot, on parle de foot. Kevin, pourquoi tu veux casser les émotions? Pourquoi tu veux?
Non, non, mais faut être froid.
Je veux pas casser les émotions, mais on n'a pas les mêmes émotions. Moi,
c'est pas très grave, on respecte les tiennes.
Pas de problème.
Toi, t'aimes pas Eden Hazard, par exemple. T'aimes pas Ryan Cherki, t'aimes pas Désiré Doué, t'aimes pas ces joueurs-là. Nous, on aime ces joueurs-là.
C'est vrai qu'ils aiment pas, c'est pas la sensibilité foot, voilà. Il a le droit d'avoir cette sensibilité.
Et il a le droit, il a tous les droits.
J'aime beaucoup Neymar.
Hein, voilà, il aime beaucoup Neymar.
Pourtant, il a pas eu de ballon d'or.
Non, Neymar, c'est juste toi, c'est ton point.
Pourtant, il a pas eu de ballon d'or.
Neymar, plus grand joueur que Dembélé dans l'histoire du foot?
Non, ça, c'est même pas des questions auxquelles j'ai envie de répondre, mais je veux te dire
Nico,
que
il est vraiment un animateur, mais dégueulasse l'animateur. Sincèrement, humainement, il y a vraiment.
Parce que c'est fini. Il a
21h57, Actu Foot derrière.
Non, parce que je sais ce qu'il pense.
Neymar est un bien meilleur joueur que Dembélé.
Kevin Diaz. Stop. C'est terminé.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est terminé. Regarde le chrono. 5, 4, 3, c'est terminé. Génération After. On s'est régalé ce soir.
Mais tu peux avoir des émotions, il y a aucun problème.
Merci Tariq. Très bonne soirée.
Très beau avec sa maman.
Sur RMC. La Ligue 2, petit point sur les scores, Camille Borin.
70e minute de jeu sur les pelouses de Ligue 2 et 2-0 pour Bastia face à Rodez grâce à un but de Tom Ducrot sur pénalty à la 58e. Et puis toujours un partout entre Annecy et Nancy. 2-1 pour Guingamp face à Dunkerque. 1-0 pour Le Mans face à Rodez. 1-0 pour Boulogne face à Montpellier. 3 mène 2 buts à 1 face au Red Star. Reims mène 3 buts à 1 face à Clermont. 1-0 pour Pau face à Laval. Et puis toujours 0-0 entre Amiens et Saint-Etienne.
Merci Camille, la fin des matchs dans l'after qui arrive tout de suite avec Gilbert Bribois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et surtout en direct de Lyon, invité exceptionnel Jean-Michel Aulas, une des figures de l'after. Malgré lui, grâce à lui.
Voilà. C'est un invité très très fort ce soir.
On va écouter ça avec attention. Gaël, merci.
Merci
on lui
Gaël.
Demandait, est-ce que Gaël va faire encore faire l'after? Mais oui, il va revenir Gaël, bien sûr, dans l'after, dans Génération After. Il va nous accompagner pendant quelques mois, j'espère. Même si peut-être l'avenir est différent.
Avant que le téléphone sonne, quoi.
Avant que le téléphone sonne, peut-être.
Faut pas que Philippe Sandero se retrouve.
Philippe Sandero se retrouve au club.
Enfin, il est à la FIFA, apparemment. On va l'avoir 2-3 semaines, quand même.
Un petit coucou à Philippe. Merci, merci Gaël, merci Walid, merci Kevin.
Salut à tous.
Demain soir, Ligue Europa sur RMC.
Et le foot.
Génération After.